Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la mémoire. Thierry Sarment, bonjour.
Bonjour Anne-Colin.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour les auditeurs qui vous écouteraient pour la première fois, vous êtes historien, vous êtes conservateur général aux Archives nationales et vous venez aujourd'hui en tant que commissaire d'une exposition, puisque les archives ont la bonne idée d'héberger une très très belle exposition qui est consacrée à Lafayette avec un sous-titre « Entre France et Amérique, histoire et légende », je précise, au singulier pour les deux, et parce que autant s'il y avait un S à histoire, ça s'entendrait, mais à légende, non, donc histoire et légende, et avec un très très beau catalogue d'expositions, vraiment passionnant, et je dois dire tout de suite, Thierry Sarment, qu'on apprend beaucoup de choses. C'est pas que j'avais la prétention de croire tout connaître sur Lafayette, mais quand même un petit peu. Bon, d'abord, c'est un peu comme les guerres de Vendée, la guerre d'indépendance américaine, on a beau essayer de s'y intéresser, on comprend jamais rien, il y a des combats partout, c'est terrible, mais c'est vraiment un catalogue qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous guide dans une personnalité, c'est pas des deux mondes, c'est des dix vies.
Nous avions une ambition pédagogique, puisque Lafayette appartient à cette génération qui a connu 10 ou 11 régimes politiques successifs suivant ce qu'on compte. Il est né en 1757, c'est la génération de Louis XVI et de ses frères. Il est mort en 1834. Il est né sous Louis XV, il est mort sous Louis-Philippe. Et de nos jours, il est assez compliqué d'emmener le public dans une des périodes les plus tourmentées, les plus tumultueuses de l'histoire de France.
Alors, c'est effectivement le contemporain de Charles X, donc du comte d'Artois, d'un des frères de Louis XVI. À deux ans près, ils auraient la même durée de vie, puisque Charles X meurt en 1836 et lui en 1834. Et alors, ce personnage de Lafayette, dont nous allons rappeler évidemment sa biographie, j'imagine que, et vous le montrez très bien dans ce catalogue d'exposition, on n'a pas nécessairement la même vision d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique.
Alors, pour les Américains, Lafayette est un héros national. Pourquoi ? Parce qu'ils le voient comme l'homme qui est venu de son propre mouvement rejoindre les insurgents de la guerre d'indépendance, et qui, de retour en France, n'a jamais cessé d'être un partisan des États-Unis, un promoteur des États-Unis. Il y est retourné à deux reprises après la guerre d'indépendance, dans les années 1780, et puis une dernière fois pour un grand voyage triomphal en 1824-1825. Donc pour les Américains, c'est un héros national, et ce qui les intéresse, c'est la période de la guerre d'indépendance. Le Lafayette de la Révolution française et des régimes qui ont suivi, ils le connaissent aussi mal que nous connaissons peu les péripéties de la guerre d'indépendance. Pour les Français, la situation est toute différente. On connaît le Lafayette de la guerre d'indépendance, mais ça n'est que la jeunesse du personnage, et l'essentiel de sa carrière se déroule au cours de la Révolution, des régimes qui ont suivi, et là, le jugement qu'on a porté sur lui est généralement assez négatif. Donc il y a deux Lafayette, un Lafayette américain, un Lafayette français, qui ne cadrent pas bien l'un avec l'autre.
Et cependant, j'ai l'impression, hein, mais vous allez peut-être me contredire, Thierry Sarment, j'ai l'impression que le personnage de Lafayette, même en France, n'est plus tellement connu. On sait que ce jeune homme est parti un jour aux États-Unis. On le retrouve peut-être au moment de la fête de la Fédération. On le retrouve un petit peu commandant de la garde nationale. Puis après, qu'est-ce que l'on... On le retrouve au moment de la guerre, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains se réfèrent à lui dans des citations qui sont d'ailleurs pas toujours bien employées.
Lafayette, nous voilà. Lafayette, nous voilà, où nous voici. Le malheur de Lafayette, c'est qu'il était un centriste. Ce qui fait que, très rapidement, dès le début de la Révolution, il est pris en étau entre, d'un côté, ceux qui restent fidèles à la monarchie, et de l'autre, ceux qui glissent de plus en plus vers la République et vers une version très accentuée de la Révolution. Et de ce fait, il ne trouve pas sa place dans les récits, dans les différentes historiographies de la Révolution. Il est détesté par les historiens marxistes, Bon, qui après, il est un représentant de la révolution bourgeoise. Et à l'inverse, il est aussi honni par les nostalgiques de la royauté. Mmh. Et du coup, les partisans de Lafayette, ce sont surtout ceux qui, comme vous le rappelez, rappellent l'amitié franco-américaine. Et Lafayette ressuscite régulièrement à chaque fois qu'il est question de réchauffer les relations entre la France et les États-Unis.
Et pourtant, Lafayette n'est pas panthéonisé, il est resté à Picpus. Est-ce que, parce qu'on a vu quand même certains descendants d'hommes qui sont au Panthéon s'y opposer et puis finalement se rallier à cet avis, il reste à Picpus sans que la France ait envie de le mettre au Panthéon?
Alors, il a été question de panthéoniser en 2007 et à ce moment-là, ça a soulevé les oppositions parce qu'on a fait observer qu'en 1792, il est passé à l'ennemi, il était général commandant l'armée dite du centre, et il est passé à l'ennemi avec tout son état-major. Effectivement, ça fait un peu désordre dans le tableau. Ça peut se comprendre dans le paysage politique de l'été 1792, mais ça vient un peu s'opposer à cette panthéonisation. Après, on peut se demander si les intéressés eux-mêmes auraient été favorables à cette idée de panthéonisation. Le cimetière de Picpus, c'est aussi une autre façon de s'immortaliser, puisqu'il vient rejoindre les victimes de la terreur, il vient rejoindre des membres de sa famille. C'est un tombeau où flotte le drapeau des États-Unis. Je trouve que ça vaut bien une panthéonisation.
Mmh. Ah oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est un très bel endroit où justement se trouve, ce sera le sort de nous tous, hein, mais se retrouve sous terre, en poussière, des personnes que on n'aurait pas imaginé voir côte à côte. Et c'est vrai que c'est un lieu plein d'émotions et plein de nostalgie, c'est certain. Alors, je rappelle aux auditeurs que Thierry Sarment est l'un des commissaires de cette exposition entre France et Amérique, histoire et légende, consacrée à Lafayette aux Archives nationales, donc à Soubise, rue des Archives nationales.
60 rue des Francs-Bourgeois, donc à l'hôtel de Soubise.
C'est ça, en plein cœur du Marais.
Qui est un des plus beaux édifices du Marais, le plus vaste palais de ce quartier. Et on peut, à la suite de l'exposition, visiter les appartements du prince et de la princesse de Soubise, qui comptent parmi les plus beaux décors du XVIIIe siècle.
Mmh. Oui, c'est vraiment un lieu qui est extrêmement agréable lorsqu'on va à une exposition, parce que d'abord, rentrer dans l'hôtel de Soubise, uniquement dans sa cour, c'est somptueux. Ensuite, on peut déambuler gratuitement à l'intérieur de lieux où, généralement, il y a toujours en plus un objet qui est mis en valeur, exposé. Je crois qu'actuellement, c'est le testament de Victor Hugo.
Il y a eu l'acte d'abdication de Napoléon, il y a le testament de Victor Hugo. Plusieurs fois dans l'année, on met en valeur un document important de l'histoire de France.
Mmh. Et puis, les lieux, vraiment, les appartements sont très beaux. Et puis, prochainement, il va y avoir aussi les jardins.
Une partie des jardins sont d'ores et déjà ouverts. Et dans quelques semaines, je ne peux pas encore vous donner la date exacte, l'ensemble du site sera ouvert à la visite. Et on aura ainsi le plus vaste jardin du Marais ouvert au public.
Mmh. Et alors, les archives nationales qui se tiennent dans ce bâtiment s'y tiennent depuis
1808, donc... comme beaucoup de demeures de l'aristocratie, elle est passée entre les mains de l'État suite à la Révolution. Et en 1808, Napoléon Bonaparte y a envoyé les archives nationales. Pendant des années, elles ont été un peu installées à la diable, soit dans les cours, soit dans les appartements aujourd'hui visitables. Et tout au long du 19e siècle, on a construit de nouveaux bâtiments qu'on appelle les grands dépôts, qui viennent ceinturer l'ancien hôtel de Soubise, où là, les archives sont présentées dans un très beau décor de l'époque de Louis-Philippe et de Napoléon III.
Alors, cette exposition se tient jusqu'au 14 juillet 2026. Chers auditeurs, il faut vous y précipiter. Ça a été un grand succès, je crois, pendant la période scolaire.
Et même après,
On est toujours en période scolaire. Mais,
ce que je remarque, d'ailleurs avec une surprise agréable, c'est que Lafayette n'est pas connu, n'est plus connu, mais son nom évoque toujours quelque chose. Et donc, il y a un effet de curiosité. Et on a parfois jusqu'à 1000 visiteurs par jour, ce qui est assez satisfaisant.
Et alors, c'était une commande américaine à l'occasion du 250e anniversaire?
Oui, alors le point de départ, c'est une université américaine qui s'appelle Lafayette College, sur la côte Est, qui a été fondée à l'occasion du dernier voyage de Lafayette aux États-Unis en 1824 et 1825. Donc pour cette université, c'était le 200e anniversaire de son existence et elle a rassemblé depuis fort longtemps une importante collection d'objets et de manuscrits relatifs à Lafayette. Et donc l'idée, c'était de montrer en France ces objets et ces collections réunies aux États-Unis, en même temps que d'autres œuvres venant des Archives nationales, du Musée Carnavalet, du Château de Versailles, du Château de Blérancourt, etc.
Mmh. Oui, parce que j'ai vu que déjà en 1957, il y avait une grande exposition Lafayette avec plus de 600 objets exposés.
Oui, c'était une exposition de référence, mais à l'époque, les catalogues étaient beaucoup plus restreints qu'ils ne le sont devenus aujourd'hui. Et on s'est beaucoup servi du travail de nos prédécesseurs de 1957. Il y a une longue tradition aux Archives nationales de travail sur Lafayette, d'édition de documents en rapport avec sa vie politique, puisque ces papiers sont en fait partagés entre plusieurs ensembles, les uns en France, dont une partie aux Archives nationales, une autre appartient à la fondation José-René de Chambrun et d'autres fonds sont partis pour les États-Unis et sont dans différentes universités américaines, Lafayette College notamment et l'université Cornell.
Alors Thierry Sarment, est-ce qu'on peut un peu parler de cette fondation justement René-José de Chambrun, parce que d'abord j'ai l'impression que maintenant elle s'appelle Fondation Chambrun.
Il faut expliquer qui était René de Chambrun. René de Chambrun était un avocat franco-américain qui descendait de Lafayette. Et qui a eu l'idée, avant la guerre, de racheter le château de Lagrange à un cousin Lastéry. Le château de Lagrange qui avait été le château où Lafayette a vécu à partir de son retour en France en 1800. Et après la guerre, il a, avec son épouse José, créé une fondation destinée à perpétuer ce patrimoine, à la fois les bâtiments et puis les archives et les objets qu'eux-mêmes avaient rassemblés. Et donc, alors, il y a un côté anecdotique, c'est que Chambrun était aussi le gendre de Pierre Laval, et son épouse, donc la fille de Laval. Et d'une certaine façon, ils ont voulu un peu faire oublier cette phase pas forcément très glorieuse de leur existence en se consacrant à une œuvre d'utilité publique. Mmh. Et donc, cette fondation, ce qui est assez révélateur, s'appelle toujours José René de Chambrun, mais José tend à être un peu mise de côté, et effectivement, dans la communication officielle, on parle plus de Chambrun-Lafayette.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que même le site actuel s'appelle maintenant Fondation Chambrun-Lafayette.
Et l'idée, le projet qui est en gestation, c'est de faire un musée qui serait au château de Lagrange, mais non pas dans le château lui-même, qui est figé, que les Chambrun ont voulu figer dans un état historique, mais dans un bâtiment accolé au château, où il y aurait un musée consacré à l'existence de Lafayette et à son parcours politique et notamment aux échanges d'idées qui se sont faits à travers lui entre la vie politique américaine et la vie politique française.
Mmh. Oui, c'est souvent dans les expositions que l'on aperçoit qu'un objet vient de la fondation René-José de Chambrun. Et donc, quand le nom nous évoque quelque chose, on se dit, tiens, qu'est-ce que cet objet fait dans une telle fondation ?
Les Chambrun n'ont jamais cessé d'acheter des objets en rapport avec Lafayette, et la fondation en achète toujours. Mmh. Voilà. La fondation a vocation à, qui a hérité du patrimoine des Chambrun, qui n'avait pas d'enfants, elle a vocation à enrichir cette collection et à la faire connaître.
Oui. Alors, ce Lafayette, on peut peut-être, Thierry Sarment, pour nos auditeurs, donner une petite biographie du personnage. Je disais au début, on l'appelle souvent le héros des deux mondes, et c'est un homme qui a eu 10 vies, parce qu'il est finalement acteur, peut-être pas en première place, mais acteur de toute cette période qui a vu une succession de régimes, d'événements, de bouleversements, et donc il renaît un peu tel un phénix perpétuellement de ses cendres. Mais qui dit naissance en 1757 dit quand même une naissance sous Louis XV, et donc une éducation d'une vingtaine d'années encore sous l'Ancien Régime.
Ah. Donc, il appartient à une famille de très ancienne noblesse. Il est orphelin très tôt, mais il a la chance d'être aussi un très riche héritier. Et en fait, il ne cessera jamais d'être un homme très riche, et ça explique beaucoup de son parcours. Il est très, très riche et très dépensier. Et cette richesse fait qu'il a pu prétendre à un mariage dans le premier cercle de la cour, à savoir avec une fille de la famille de Noailles. Les Noailles, depuis l'époque de Louis XIV et Madame de Maintenon, étaient très proches du pouvoir. Il y avait, au château de Versailles, il y avait une suite d'appartements qu'on appelait la rue de Noailles, tellement il y avait de Noailles installées dans cette aile du château. Cette proximité qui est due au fait qu'une nièce de Madame de Maintenon a épousé un Noailles. Donc, à la veille de la Révolution, c'est une famille qui est encore dans les plus importantes de la cour. Et le duc de Noailles, donc, marie sa petite-fille, la fille du duc d'Ayen, à Lafayette, parce qu'il apporte effectivement un patrimoine très considérable. Et pour lui...
Qui lui vient de sa mère. Hein,
qui lui vient de sa mère. Et de ce fait, eh bien, il va être très tôt en rapport avec les grands cercles de la cour. Et ça fait aussi son prix pour les Américains, parce que les Américains ont vu en lui une sorte de produit médiatique qui servirait leur communication auprès de l'opinion. Il était jeune, beau, bien né, riche, et ils ont vu en lui quelqu'un qui servirait à leur communication, aussi bien auprès des cercles de la cour que de l'opinion au sens large. Mmh. Et puis, l'aspect argent n'est pas sans importance, puisque Lafayette a pu se faire admettre avec le grade de major général parce qu'il servait à ses propres frais et même à certains moments de la guerre d'indépendance, il a lui-même payé les troupes qui étaient sous ses ordres. Et vu les difficultés financières des insurgents, ça n'était pas négligeable.
Mmh. Alors, ce qui me frappe souvent, Thierry Sarment, puisque moi, finalement, mon, entre guillemets, métier consiste à lire des livres et à interroger leurs auteurs, et c'est que parfois, on tombe sur une exposition, un livre ou un chapitre dans un livre qui répond enfin à une question qu'on s'était posée. Et parce que parfois, on a un peu l'impression que c'est un peu toujours les mêmes choses qui sont reprises. Et là, avec Lafayette, eh bien, j'étais très intéressée de voir comment, et là aussi, on commence à aborder le monde de la communication, comment l'idée du soulèvement des colonies, l'idée des premières escarmouches, l'idée de qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique, arrive en France, et comment un officier jeune comme Lafayette en entend parler au détour d'un dîner à Metz.
Oui, alors il faut bien se représenter que les 13 colonies britanniques en fait étaient en ébullition depuis très longtemps. Et les observateurs, depuis même la fin de la guerre de 7 ans, en 1763, et les observateurs les plus avertis, en fait, sentaient venir, dès la fin des années 1760, les observateurs européens les plus avertis se disent « ces colonies ne vont pas tarder à chercher à se détacher de la métropole ». Et du côté français, où on vient d'être battu par les Britanniques, évidemment, on cherche une revanche, et c'est la raison pour laquelle Lafayette appartient à cette génération qui est restée marquée par l'humiliation de la fin de la guerre de 7 ans. Et évidemment, dès qu'il va entendre parler de l'insurrection américaine, évidemment, ça réveille en lui cette idée d'une revanche contre l'Angleterre.
Mmh. Alors, j'ai quelques questions quand même à vous poser. Les États-Unis, vous me le disiez avant cette émission, que l'on qualifie de pays jeune par rapport à notre vieille Europe, avaient tout de même, sur certains points, beaucoup d'avance sur nous, notamment sur le parlementarisme, même si le mot est peut-être un peu anachronique ou déplacé à cette époque. Mais les 13 colonies avaient leur propre...
Chacune avait son assemblée représentative, oui. Avec des suffrages, peut-être pas encore du suffrage universel, mais du suffrage, disons, élargi. Voilà. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'il y avait une expérience de vie politique, de presse. On connaît un personnage comme Franklin, Benjamin Franklin, qui, tout au long du siècle, publie des pamphlets. Et donc, Lafayette s'est retrouvé face à une vie politique déjà assez élaborée. Et on peut, un de ses malheurs, c'est rentrer en France, d'avoir pris les Français pour des Américains. Finalement, les institutions américaines telles que nous les connaissons encore aujourd'hui, elles se sont mises en place à la fin du XVIIIe siècle avec une certaine facilité, avec ces trois branches de la Constitution américaine que nous connaissons. Mais la France est tout à fait autre chose. Elle n'avait pas d'expérience de la vie parlementaire. Et très rapidement, il y a eu une montée aux extrêmes qui fait qu'il faudra un siècle, finalement, pour que les institutions dont Lafayette rêve soit mise en pratique. Mmh. Lafayette, ce qu'il imaginait, il imaginait ce qu'on appelle le bicamérisme, donc deux assemblées, un peu comme le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis, et un suffrage, peut-être pas encore la démocratie au sens du suffrage universel, mais au moins un suffrage élargi à tous les propriétaires ou à tous ceux qui paient l'impôt. Et finalement, il faudra de nombreuses convulsions pour que la France devienne adaptable à ce régime.
Alors, si vous voulez bien, Thierry Sarment, je voudrais quand même rappeler aux auditeurs cet épisode du banquet de Metz, là, en août 1775, parce que je trouve que ça replace tout de même un Lafayette. C'est pas que ça lui enlève son côté de héros, mais ça le replace dans un contexte où la question se posait. On commençait à en parler dans les milieux un peu avertis. Et en plus, ce duc de Gloucester, là, le frère de George III, a un petit côté prince Harry... il a épousé quelqu'un qui n'était pas de son rang, il est banni de sa famille, mais il ne peut quand même pas s'empêcher d'essayer de faire des affaires politiques. Et donc il revient d'Italie, il s'arrête à Metz, et là il critique son frère.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on est dans la culture du grand tour. C'est-à-dire, alors, les élites désormais voyagent. C'est pas encore le tourisme au sens du tourisme de masse, mais les élites voyagent et ont déjà une culture européenne. C'est-à-dire que un Anglais cultivé, l'île française, sinon il éventuellement le parle. Et on s'intéresse à ce qui se passe dans l'Europe entière et aux Amériques. Et ce banquet, c'est ça, c'est cette communication des élites. Vous voyez, il revient d'Italie, il repart. Notamment, toute l'aristocratie britannique a cette culture du grand tour, qui passe par l'Italie, le pays des arts, et qui revient par la France, qui est à la fois l'ennemi héréditaire, mais en même temps le pays de la grande littérature.
Et donc là, au cours de ce banquet, il apprend qu'il commence à y avoir...
Une rébellion, voilà. Et il s'enflamme pour ce projet. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'il est parti contre la volonté du pouvoir ? C'est un peu ce qu'il raconte dans ses mémoires. En fait, plus on creuse, plus on voit qu'en fait, on s'est opposé très mollement à son départ. Il a eu une espèce de permission tacite de partir. Alors, il est parti d'abord pour Bordeaux, puis s'est embarqué sur un bateau. Il est parti du nord de l'Espagne. Bon, il y a tout un parcours complexe pour donner une apparence de... pour que sans doute le pouvoir puisse le désavouer, le cas échéant. Mais en fait, il n'est pas parti contre la volonté du gouvernement. C'est un peu un mythe.
Et donc là, il va y avoir une grande amitié, ça on peut quand même le reconnaître, entre Washington et lui, puisque même si on confie ensuite, quelques années plus tard, le commandement du corps expéditionnaire à Rochambeau, qui est un homme beaucoup plus âgé que lui, quasiment 30 ans qui les sépare, il n'empêche que la grande amitié entre Washington et Lafayette ne va pas se démentir.
Ah, Lafayette a eu le grand mérite d'apprendre l'anglais, ce qui à l'époque ne serait venu à l'idée de quasiment personne en France, puisque le français était la langue de communication européenne. Pendant son premier voyage dans le bateau, il a appris l'anglais. Ça l'a rendu capable de le lire, mais aussi de le parler. Or, il se trouve que Washington, lui, ne parlait pas français. Donc là, les communications ont été facilitées. Lafayette étant orphelin, a vu dans Washington une sorte de père. Et Washington a eu une sympathie réelle pour Lafayette, qui s'est révélé en plus savoir s'adapter au type de guerre qui se pratiquait aux Amériques, qui était plutôt une guerre, ce qu'on appelle la petite guerre, où souvent ce sont des opérations de guérilla plutôt que des batailles de grand style. Et puis il y a aussi une considération un peu plus politique là-dedans, et c'est que à terme, les Américains préféreront toujours mettre en avant Lafayette plutôt que Rochambeau, quand ils se souviendront de la guerre de l'indépendance. Pourquoi ? Parce que Lafayette a toujours cette image d'indépendant, tandis que Rochambeau, c'est l'armée royale, c'est l'armée d'une monarchie absolue. Et donc, avec le temps, tout le monde connaît le nom de Lafayette, le nom de Rochambeau, il n'est connu que des historiens. Mais ça, c'est aussi une part de propagande politique.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, que ce soit La déclaration d'indépendance, que ce soit le départ de Lafayette, que ce soit ensuite la fin de la guerre, le traité de Versailles, etc. Tout se passe sous l'Ancien Régime, tout se passe
tout
sous le règne de Louis XVI. Et je pense que bon nombre de personnes qui viennent visiter votre exposition ressortent de là en ayant peut-être remis en place quelques idées qui auraient peut-être consisté à mettre Lafayette après la Révolution. Mmh. Enfin, cet épisode de la guerre d'indépendance américaine n'est pas...
Ou à faire de lui le principal, l'acteur principal de cette affaire,
oui.
Ce qui n'est pas le cas. Son rôle, alors il a notamment à la bataille du Yorktown, il commande une division, mais ce n'est pas lui qui est le responsable de la victoire de Yorktown. En fait, c'est un symbole vivant, Lafayette, voilà. D'où le nom du héros des deux mondes. Mmh. Mais ce n'est pas l'acteur principal du drame.
Mmh. Alors, je rappelle aux auditeurs que j'ai le très grand plaisir de recevoir Thierry Sarment, qui est historien, qui est conservateur général aux Archives nationales, commissaire de l'exposition consacrée à Lafayette entre France et Amérique, histoire et légende, et qu'avec lui, nous évoquons ce personnage haut en couleur, mais parfois méconnu, qu'est Lafayette.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Thierry Sarment, vous l'avez un tout petit peu évoqué avant que nous nous arrêtions. Souvent une exposition, une grande exposition comme celle-ci, sur un personnage très documenté, c'est l'occasion de nouvelles approches ou d'une meilleure compréhension du personnage. Pour vous, historien, qu'est-ce que vous avez appris ou quelles idées avez-vous un petit peu nuancées
? Moi, ce qui m'a fasciné en Lafayette, c'est que c'est le premier homme politique de type moderne. Avant lui, un homme politique se situe d'abord par rapport au souverain, au roi. C'est soit un homme de cour, un favori, soit un rebelle. Lafayette est dans une perspective nouvelle. Lui, son rapport majeur, il est avec l'opinion. Avec une opinion qui n'est pas celle de maintenant, qui est surtout une opinion parisienne, une opinion des élites et une opinion du peuple de Paris. Il se situe par rapport à l'opinion et il est obnubilé par la question de la popularité. Et il est un des premiers à utiliser des moyens modernes de communication pour entretenir et essayer de préserver, voire accroître cette popularité. Alors il va échouer parce que les événements vont le dépasser, comme ils ont d'ailleurs dépassé toute cette génération. Ils sont emportés par le flot de la Révolution. Mais il met en place une communication par l'image, par des objets, par ce qu'on appellerait en mauvais français des goodies. Hein. Et il est de ce point de vue-là très, très moderne. Mm. Et c'est le modèle de l'homme politique moderne qui cherche à conquérir l'opinion. Et l'exposition met cela en avant en présentant les différents objets, les différentes images qu'il a diffusées. Il avait même entretenu toute une troupe pour applaudir au moment de ses discours à l'Assemblée. Ça vous montre un peu comment les choses se passaient. Et par contraste, comme il a suscité très vite des oppositions, eh bien, il y a toute une production de caricatures hostiles à Lafayette à partir de 1791. Mmh. Donc on est vraiment dans une vie politique qui n'est plus celle de l'ancienne monarchie. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce personnage qui finalement en rappelle beaucoup d'autres plus récents.
Alors, si on suit notre Lafayette de retour des États-Unis, avec donc un premier départ sur un bateau de commerce, la Victoire, un deuxième départ sur cette fameuse Hermione, dont les auditeurs entendront peut-être l'histoire dans quelques semaines, parce que j'ai préenregistré avec le général Vincent de Kiss-Potter, qui a publié un ouvrage sur Yorktown et qui nous parle de l'Hermione qui va sombrer dans l'embouchure de la Loire. Lors des escarmouches ou même quasiment combats navals qu'il y a eu au moment de l'affaire de Quiberon. Donc il revient en France et là, c'est un officier noble d'une famille, en plus avec des alliances quand même, donc une alliance avec la famille de Noailles. Et est-ce que il était prédestiné à du fait de ses prises de position antérieures, à se retrouver dans, au début, l'impression d'être dans la... Je ne trouve pas le mot que je vais mal prononcer. En tout cas, acquiescer les idées de démarrage de la Révolution française. Ou bien, là aussi, c'est quelqu'un qui sent le vent de l'histoire.
Alors, on peut dire qu'il est d'emblée dans... Il est tout à fait l'homme de 1789. Voilà, il est dans les idéaux de 1789. Et d'ailleurs, il se fait élire député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux. Mais très rapidement, il se révèle que lui est un centriste et qu'il va être dépassé sur sa gauche, pour dire les choses très... Et on le voit dès l'année 89, donc c'est le moment où il est désigné comme chef de cette garde nationale qui se forme à Paris, qui va bientôt s'étendre à toute la France. Et donc, c'est, comme l'armée est en pleine décomposition, c'est lui qui a la force militaire principale pendant un ou deux ans. Et finalement, il ne fera pas grand-chose de cette, ni de sa popularité de départ, ni de, cette, de ce pouvoir qu'il a grâce à la force armée. Et à plusieurs reprises, il va être dépassé par les événements. Alors, un des plus célèbres, c'est en octobre 1789, quand une foule venue de Paris se présente à Versailles, réclame le retour de la famille royale à Paris. Les grilles du château sont fermées, Lafayette va se coucher, et pendant que Lafayette dort, eh bien, on ouvre la porte. Il n'est pas encore bien déterminé si c'est la garde nationale ou si c'est les gens du château qui ont ouvert. Bon, c'est encore très discuté. Mais en tout cas, quand Lafayette se réveille, eh bien, c'est trop tard. La foule est entrée dans le palais, les gardes du corps ont été en partie massacrés, et il faut, pour calmer la foule, admettre le retour de la famille royale à Paris. Et la Révolution française sera remplie d'événements de ce type, où Lafayette finalement est entraîné par le flot, il aurait voulu arrêter la Révolution sur un mode légaliste, puisque comme toutes ces générations, c'est quelqu'un qui est obsédé par la loi, par l'ordre et la légalité, toutes ces générations d'hommes politiques, et en fait, les événements vont trop vite pour lui.
Oui, il n'arrive pas non plus à empêcher le massacre de Foulon et de Berthier de Sauvigny.
Il l'avoue d'ailleurs lui-même dans ses mémoires assez nettement. Voilà. Et il est dépassé par la foule révolutionnaire. Alors, à sa décharge, toute sa génération politique a été entraînée dans le même flux. Et d'ailleurs, les hommes qu'on retrouvera en 1792 et 93 du côté de la Terreur, en 1789, il n'imaginait pas du tout ce qu'il deviendrait républicain. Et les événements ont été plus grands que les hommes.
Alors, il a quand même un peu de courage au moment du retour de Varennes, parce qu'il s'affiche aux côtés du roi, il y va.
Alors, Lafayette est un homme qui a, dans le courage physique, est indéniable. Il l'a montré pendant la guerre d'indépendance, il le montrera ensuite. Ce qui lui manque, c'est le sens politique. Alors, si je prends justement l'exemple du retour de Varennes, donc le roi et sa famille sont consignés aux Tuileries et du coup Lafayette se retrouve dans le rôle du geôlier et de ce fait il va être encore plus détesté par les royalistes et même par la famille royale. Alors il y a un mot qu'on prête à Marie-Antoinette qui est sans doute inventé mais qui je pense montre bien quelle était l'opinion que Louis XVI et elle-même avaient de Lafayette. Elle aurait dit Monsieur de Lafayette veut nous sauver mais qui nous sauvera de Monsieur de Lafayette? Et ça reflète bien combien il est détesté de toute une frange de l'opinion.
Mmh. Et alors, la révolution s'emballe, et il faut bien, quand on est militaire, choisir son camp, d'autant qu'en 92, la guerre est déclarée. Et donc, que fait notre ami Lafayette?
Alors, il a démissionné du commandement de la garde nationale, sans doute parce qu'il se sentait dépassé par ses troupes, et il obtient le commandement d'une armée, avec le grade de lieutenant général. Les opérations se passent mal, et en même temps, à Paris, la situation politique se dégrade. Et nouvelle démarche imprudente, il revient à Paris pour protester contre les atteintes portées à l'autorité royale, et il proteste en se rendant à l'Assemblée. Et donc, c'est pris comme une intervention militaire dans la vie politique, puisqu'il n'a plus de mandat politique. Ce qui fait qu'au moment de la chute de la monarchie, il est sur le point d'être mis en accusation par l'Assemblée. À la nouvelle de la chute de la monarchie, il essaie de rallier ses troupes, mais en fait, ses troupes ne le suivent pas. Et donc, il prend le parti, avec son état-major, de passer à l'ennemi. Et donc, il se rend dans les lignes prussiennes et il est persuadé qu'il va être bien accueilli et qu'on va le laisser partir vers la Hollande et l'Angleterre. Et ce n'est pas du tout ce qu'il se passe puisqu'on libère l'essentiel de son état-major, mais lui va se retrouver emprisonné d'abord par les Prussiens, puis par les Autrichiens pendant plusieurs années. Mmh. Et alors c'est là la grande bascule de la vie de Lafayette, puisque donc, il disparaît de la scène politique française pendant toute une période. Il est emprisonné pendant 5 ans, puis 2 ans en exil. Il revient en France en 1800. Et quand il revient, eh bien, il est devenu un homme du passé. Puisque toute sa génération est passée sous la guillotine. Louis XVI, Marie-Antoinette, Philippe Égalité, Bailly, Robespierre, Danton, etc., etc. Et lui se retrouve une sorte de monument historique vivant et très déphasé.
43 ans.
Mais très déphasé, puisque celui qui est au pouvoir, c'est un jeune général, beaucoup plus jeune que lui, qui est le fameux Bonaparte, qui d'ailleurs se méfie beaucoup de ce...
C'est Lafayette. C'est intéressant de voir que Napoléon a jamais cherché à le rencontrer.
Alors, ils se sont vus une fois, mais Bonaparte, c'est l'anti-Lafayette. C'est l'homme du réalisme, c'est l'homme de l'autorité. Il est hostile aux assemblées parlementaires. Et puis surtout, Bonaparte jeune a été témoin des grandes scènes de désordre de la Révolution qui lui ont fait horreur. Et d'une certaine façon, il est de ceux qui pensent que l'insuffisance politique de Lafayette ont été une des causes de cette dérive de la Révolution. Mmh. Et donc, il n'y a pas d'entente possible entre les deux hommes, ce qui fait que pendant 15 années, notre Lafayette va rester tranquillement dans son château de la Grange Bléneau en Seine-et-Marne, ce fameux château de la Grange qui maintenant appartient à la Fondation de Chambrun.
Mmh. Avec une descendance ?
Alors, il a des enfants. Il a un fils qu'il a appelé George Washington. Il a 2 filles. Et si mes souvenirs sont bons, les descendants indirects actuels, donc par les femmes, sont plutôt les descendants par les filles.
D'accord. Une fille, d'ailleurs, qui s'appelle Virginie.
Oui, alors, c'est parce qu'il a organisé, comme c'est la période glorieuse de sa vie,
bien sûr,
tout chez lui doit rappeler cette guerre d'indépendance. Il organise un culte familial de sa personne, qui est d'ailleurs le début de la mise en avant politique de sa personnalité.
Il faut dire que c'est un homme, enfin, quand on voit le catalogue de l'exposition, qui a été énormément portraituré.
C'est l'homme le plus portraituré en France, si on excepte Louis XVI et Napoléon.
Ah oui, c'est ça, parce que vraiment, en plus par des grands peintres...
Alors, lui-même a sa propre initiative, puisque lui-même a été en rapport avec des peintres comme Hubert Robert. Ça commence par des commandes de lui-même, puis des tableaux dérivent des estampes, l'estampe qui permet la large diffusion, mais aussi des médailles, mais aussi des objets de toutes sortes, des éventails, des boutons d'habits, des gardes d'épée. Voilà. Il y a la volonté de mettre en avant son image.
Mmh. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'avec Thierry Sarment, historien, conservateur général aux Archives nationales et commissaire de l'exposition, nous parlons de cette grande exposition consacrée à Lafayette entre France et Amérique, histoire et légende, se tient aux Archives nationales. Exposition qui s'inscrit évidemment dans le cadre du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États d'Amérique. D'ailleurs, vous parlez un moment, le terme d'États-Unis date de 1784.
Ils ont hésité sur le nom de leur État. Le nom d'États-Unis ne s'est pas imposé tout de suite. Et puis, comme vous savez, la Constitution aussi a dû être révisée pour devenir ce qu'elle est maintenant, pour devenir moins fédérale qu'elle n'était au départ. Mmh. Au départ, certains États se seraient bien vus quasi indépendants.
Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on voit très bien dans cette exposition ce qui peut paraître un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un pays de tutelle d'origine qui est l'Angleterre, et qui à nos yeux paraît le pays par excellence du parlementarisme, et qui en fait foule sous ses pieds les tentatives de vie parlementaire de ces 13 colonies, en leur imposant, sans leur faire voter à eux, des taxes. J'avais pas tellement bien compris d'ailleurs cette histoire on va pas faire de parallèle avec Israël et les colonies, mais il y a tout de même tout d'un coup l'Angleterre qui leur dit stop, ça suffit, on arrête.
Il y avait cette idée qu'une colonie, c'est d'abord une colonie d'exploitation. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est une grave erreur du gouvernement britannique. Faut pas imaginer que tout était fatal. Par exemple, quelqu'un comme Franklin a failli être secrétaire d'État aux colonies britanniques. Mmh. Vous voyez, une partie des hommes politiques américains étaient formés en Angleterre. Et d'ailleurs, après la guerre d'indépendance, les relations économiques majeures ne seront pas avec la France, comme les Français l'avaient espéré, mais il y aura très rapidement réconciliation du côté du business, pour dire les choses dans la langue de ce pays, avec l'Angleterre.
Mmh. Oui, bien sûr. Oui. Alors, notre Lafayette donc est en France, traverse la période de l'Empire en retraite, on va dire, tranquillement. Et puis arrive évidemment la Restauration. Et là, c'est très intéressant aussi de voir la première et la deuxième restauration sous l'angle de Lafayette, parce qu'il n'a pas du tout la même attitude. Il va même...
Comme tout le monde, il a oscillé. Bon. C'est-à-dire que il était très hostile à l'évolution autoritaire et néo-absolutiste du gouvernement impérial. Donc en 1814, il se rallie aux Bourbons. Parce qu'il y a la charte, et donc c'est une monarchie constitutionnelle. Ça ne l'empêche pas de se rallier de nouveau à Bonaparte pendant les 100 jours. Il se fait même élire à la Chambre des représentants des 100 jours. Mais après Waterloo, il œuvre pour obtenir l'abdication de Napoléon. Et ce qui fait qu'à la seconde restauration, il se rallie encore une fois aux Bourbons. Alors, on pourrait croire que c'est une palinodie, mais pas du tout. En fait, toute la classe politique française a réagi un peu de la même façon. Au fond, c'est le moment où on devient un peu indifférent à qui est sur le trône. Ce qu'on veut, c'est des institutions représentatives. Mmh. Et ça explique...
ressemblance, vous savez, avec des situations contemporaines.
Ce ne serait pas le fait du hasard.
Voilà, exactement. Ceci dit, quand même, il fait partie de certaines réunions qui réfléchissent à comment est-ce que l'on pourrait revenir, après le départ de Napoléon, à un système sans que ce soit pour autant avec les Bourbons. Il pousse quand même une réflexion peut-être plus loin que certains.
Le problème, c'est qu'il se retrouve face à des gens plus malins que lui, comme Fouché ou Talleyrand. Et évidemment, lui, il aurait sans doute voulu une réforme de la charte qui aille plus dans le sens d'une monarchie constitutionnelle limitant les droits du monarque. Et là-dessus, il est encore dupe. Et ça n'est qu'avec 1830 que là aura lieu le moment où les Bourbons tombent, les Orléans montent sur le trône, la charte est révisée. Et c'est là où Lafayette, en se ralliant à Louis-Philippe, a permis cette monarchie de juillet, dont il dira à Joseph Bonaparte... c'est ce que j'ai cru faire, qu'on pouvoir faire de mieux. Mmh. Parce que même à l'époque, ils ne pensent pas qu'une république soit possible en France.
Et on connaît les relations entre les deux hommes, entre Louis-Philippe, le duc d'Orléans, pendant la Révolution.
Ils se connaissaient nécessairement. Louis-Philippe était encore très jeune. Je pense qu'il connaissait plus Philippe Égalité. Elles n'ont jamais été très, très étroites. On ne peut pas du tout le classer parmi les orléanistes. Donc c'est un ralliement de raison en 1830, et d'ailleurs dès la fin de l'année, Lafayette est de nouveau dans l'opposition à Louis-Philippe. D'ailleurs, notre exposition se termine de façon assez amusante par une caricature représentant Louis-Philippe se faisant servir un plat d'oignons pour se forcer à pleurer à l'annonce de la mort de Lafayette.
Mmh. Oui, alors Lafayette, il a une mort très banale, hein. Il prend froid, comme Joséphine.
C'est très courant au 19e siècle.
C'est ça.
Une façon de mourir absolument banale, c'est d'aller à un enterrement où on prend froid. Et là, effectivement, il y a un nombre considérable d'hommes politiques qui meurent suite à des obsèques.
Ah oui.
C'est un peu triste. Après, il avait quand même un âge respectable pour l'époque, donc...
Oui, 77 ans.
Voilà. À l'époque, c'était un âge très avancé.
Oui, voilà. Une vie extrêmement remplie et quand même des prises de position dont on peut régulièrement s'étonner qu'elle n'ait pas donné lieu à davantage de...
Ce qui est saisissant, c'est qu'il a toujours eu les mêmes opinions. Alors qu'à une époque où tout le monde en changeait avec une facilité stupéfiante, c'est l'anti-Talleyrand, l'anti-Cambacérès. Mais... il lui manque la capacité de transformer ses convictions en actes et en possibilité de pouvoir politique. C'est pour ça que Napoléon le traitait de niais.
Sympathique. Alors, cette exposition donc, s'intitule « Entre France et Amérique, histoire et légende, Lafayette ». Donc, je pense qu'on a expliqué un peu ce terme de légende. Hein. On l'a dit dès le début de cette émission.
C'est une légende vivante dès sa jeunesse. Un peu un produit de communication créé par les Américains qui prend son autonomie. Et ce côté légendaire du personnage le poursuit toute sa vie de sa propre initiative et se prolonge après sa mort jusqu'à aujourd'hui.
Et un catalogue d'expositions que je recommande vraiment à nos auditeurs de se le procurer, Grand Palais et Réunion des Monuments Nationaux pour, et les Archives Nationales et le Lafayette Collège pour les éditeurs, parce que les dernières biographies de Lafayette remontent un peu quand même. Hein. Il y a eu celle de Taimit, non ?
Il y a eu Étienne Taimit en 1989, qui est plutôt hostile à Lafayette. Et il y a eu Jean-Pierre Bois, plus récemment, en 2018, si je ne dis pas de sottises, qui lui est plutôt favorable, plus nuancé.
Oui, d'accord. Mais c'est vrai que pour des personnes qui voudraient avoir un peu un état des lieux, des connaissances et des perspectives des historiens sur ce personnage entre l'histoire et la légende, entre le Lafayette des États-Unis et le Lafayette français, je trouve qu'on a vraiment
Le catalogue donne l'essentiel à la fois de sa vie et de son historiographie, et son intérêt, surtout, on a pris parti de reproduire les tableaux et les estampes en très grand format.
C'est ça.
Éviter le timbre-poste, parce que toutes ces images politiques ont besoin d'être décodées, d'être examinées.
Et donc, alors justement, voilà, Thierry Sarment, on pourrait parler un peu des objets tout de même.
Il y en a qui sont absolument déroutants, ce sont les objets produits au moment du second voyage de Lafayette en 1824-25. Et là, on est déjà dans une sorte de congrès du Parti républicain ou du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a vous avez le service à thé Lafayette, la brosse à habits Lafayette, les chaussures Lafayette. C'est assez extravagant de voir tout ce qu'on pouvait produire de cette époque-là. C'est le moment, on n'est pas loin du moment où Tocqueville ira en Amérique et pour découvrir une démocratie moderne qui lui fait un peu peur, parce que désormais on arrive dans l'âge des masses.
Et ce voyage, donc, qui dure
presque un an,
à cheval sur l'année 1824 et l'année 1825, sur tout de même des kilomètres.
Il fait le tour de tous les États-Unis.
Et puis ne serait-ce que la côte Est et les terrains d'action de cette guerre d'indépendance, on a peut-être du mal à l'imaginer de l'autre côté de l'Atlantique, mais qu'on aille de Portland...
une autre échelle.
C'est vraiment très très vaste. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une route Rochambeau-Washington, il y a un Lafayette Trail, enfin je pense que...
Il faut imaginer qu'aux États-Unis, vous avez des dizaines de villes, de comtés, d'établissements, de rues qui portent le nom de Lafayette. D'ailleurs, Lafayette ne s'écrit pas de la même façon en France et aux États-Unis. En France, c'est là, plus loin, Fayette, comme Madame de Lafayette, la romancière du XVIIe siècle. Et aux États-Unis, c'est Lafayette en un seul mot.
Et alors, quel parti pris avez-vous pris en
alors
un
ici,
mot
on s'est rallié, au parti pris américain, puisqu'on était, on co-réalisait avec le Lafayette College, dont le nom s'écrit en un seul mot.
Et d'ailleurs, ce nom de Lafayette, puisque c'était Gilbert Dumotier...
Dumotier ou Motier, son nom.
On sait bien que sous l'Ancien Régime, il y avait des fluctuations d'appellation. C'était son nom courant d'usage, Lafayette.
Tout à fait. Alors, c'était le marquis de Lafayette. Et lui, à partir de la Révolution, se fait appeler le général Lafayette. Sans particule, c'est un choix politique. Et lui-même l'écrit en un seul mot.
Ah oui, d'accord.
Et alors, d'ailleurs, il est Talleyrand, qu'il déteste, dans ses mémoires, dit Monsieur de Lafayette est d'une famille ancienne mais peu illustre.
Oui, bon, écoutez, c'était presque un compliment de la part de Talleyrand. Donc des objets. Alors moi, j'ai été frappée par le nombre de portraits. Je l'ai déjà dit. Et puis des tableaux qui nous emmènent tout de même dans un monde. De l'autre côté de l'Atlantique, un peu, je comprends que c'était rêvé, idéalisé par... d'ailleurs, il y a des toiles de Jouy, des papiers peints, des tissus. C'est plus les chinoiseries du 18e.
Alors, on est dans des États-Unis en plein essor. Quand on voit les vues de New York à cette époque, ça nous paraît, évidemment, c'est une ville encore, qui nous paraît encore modeste, mais c'est un pays déjà en plein essor. Et avec l'industrialisation qui commence à percer, le commerce international, ils sont encore à faire venir leur faïence d'Angleterre. Et les Anglais, qui sont d'abord commerçants, n'hésitent pas à fabriquer des services à thé à l'effigie de Lafayette. Ça ne les gêne pas du tout.
Alors, une question, Thierry Sarment, que je me suis posée. Jamais Lafayette n'a eu envie de rester aux États-Unis, de faire sa vie là-bas. Alors, il aurait peut-être fallu qu'il persuade son épouse, ça aurait été difficile.
Son épouse, qui avait bien du mérite parce qu'il l'a beaucoup trompée, est morte vers 1806. Et puis lui-même s'imaginait, c'est un Français. En fait, son rêve ultime, ça aurait été d'être le Washington français.
Mm-hmm.
Rêve qui ne s'est pas réalisé du fait de sa personnalité et aussi du fait des événements qui ont marché avec une rapidité inconcevable.
Mm-hmm. Parce qu'il y a des officiers qui sont restés aux États-Unis, qui ont épousé éventuellement des familles, enfin des filles de familles françaises.
L'armée
de
américaine
colons,
est très marquée par ce. À l'entrée de West Point, vous avez le buste d'un général français qui est là-bas. Le plan de la ville de Washington a été dressé par un ingénieur français, un architecte français. Les règlements de l'armée américaine que nous voyons aujourd'hui dans tous les films, viennent d'un officier qui était passé par l'armée de Frédéric II, puis par l'armée française.
Mm-hmm. Mais lui, non, il n'a jamais eu envie de rester...
Sa fortune était en France aussi, il faut dire ce qui est. D'accord. Son patrimoine était en France.
Oui, parce que quand on lit les mémoires de la marquise de la Tour du Pin, ils sont aux États-Unis, ils sont devenus des colons planteurs.
La période la plus heureuse de la vie de Madame la Tour du Pin, c'est quand elle est toute seule. Dans sa cabane.
J'invite les auditeurs à lire ce livre.
Et finalement, elle revient en France où son mari devient préfet, mais paradoxalement, elle était plus contente quand elle étendait son linge avec sa domestique dans une cabane au fin fond des Amériques.
Oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc Adrienne de Noailles, c'était pas son truc.
Je n'imagine pas. Alors, elle, c'était une épouse, c'est une femme de devoir. Donc elle l'aurait suivi s'il avait fallu.
Mm-hmm.
Mais non, lui, il s'imaginait quand même un destin français.
Ah oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr, on peut comprendre qu'il avait de toute façon une envergure et une volonté, en tout cas, et une idée de lui-même.
Ce qui lui a manqué, c'est qu'il ne voulait pas utiliser... Je pense que c'était un homme hostile à la violence, attaché au droit. Et évidemment, dans une époque où tout était coup d'État et révolution, il était moins armé pour... prendre le pouvoir que des gens qui avaient une morale plus élastique.
Est-ce qu'on peut parler, Thierry Sarment, dans les quelques petites minutes qui nous restent, de cette idée de parti constitutionnel? Est-ce que c'est une idée donc, qui germe tout de même assez vite dans la tête de certains? Lafayette en est un peu l'exemple. Et finalement, ça n'a jamais fonctionné.
On pense à Madame de Staël aussi.
Oui,
alors, ou Bailly, voilà, ce qu'on peut appeler un centre ou un centre droit. Donc, ils ont contre eux la cour, les royalistes, et puis ce qu'on peut appeler le peuple de Paris avec beaucoup de guillemets, et une évolution, toujours plus, on peut dire, vers la gauche de la Révolution, qu'ils sont rapidement dépassés. Mmh. Alors, la meilleure représentante de ce courant, c'est Madame de Staël, qui a, dans ses considérations sur la Révolution française, reflète l'opinion de ce parti constitutionnel, mais qui va sur la longue durée, qui va avoir des effets sur la longue durée, parce que les héritiers, ce seront d'une certaine façon les orléanistes de la Monarchie de Juillet, puis les républicains modérés de la Troisième République. Ce parti constitutionnel, il est vaincu sur le moment, mais on dirait qu'il a essaimé des idées qui finiront par s'imposer avec une république plus ou moins conservatrice.
Oui, c'est ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un parti conservateur.
On peut dire que l'héritier, ce serait Thiers, ancien ministre de Louis-Philippe, devenant président de la République en disant « la République est le régime qui nous divise le moins ». C'est un peu ça, faute d'avoir trouvé le monarque constitutionnel suivant son cœur, finalement on arrivera à cette république par défaut.
Mmh. Donc finalement, les idées de Lafayette...
Elles ont triomphé, mais très longtemps après lui.
Oui, puisque je rappelle qu'il est décédé en 1834 de sa bonne mort, en attrapant froid, ce qui n'est pas très glorieux pour le héros des deux mondes. Mais écoutez, on ne peut que lui souhaiter d'avoir eu une mort plutôt douce, plutôt que d'être mort au combat. Et donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, cette très riche, c'est vraiment une très riche exposition aux archives, dont vous êtes... Thierry Sarment, l'un des commissaires, Lafayette, entre France et Amérique, histoire et légende, donc qui se tient jusqu'au 14 juillet, une date qui ne s'oublie pas, évidemment, et avec un très beau catalogue d'expositions que je vous invite vraiment à acquérir. Merci beaucoup Thierry Sarment,
merci,
c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Radio Courtoisie. Et chers auditeurs, à mardi prochain, au revoir.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la mémoire, dirigé par Anne Colin, émission préenregistrée le 1er juin 2026 est diffusé pour la première fois mardi 9 juin 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement. Si vous êtes adhérent de notre association, je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.